Radio Télécom, 19h15-20h, Nicolas Morisot. Ce soir, à Radio Télécom, nous avons l'honneur de recevoir un artiste et universitaire canadien, Georges Legrady. Bonsoir, Georges Legrady. Soyez Bonsoir. Le bienvenu dans le studio de Radio Télécom et à Télécom Paris Tech. Comment allez-vous?
Ça va bien, oui.
Très bien, nous aussi. Ce soir, nous allons tâcher d'en apprendre un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre œuvre artistique. Et pour vous interviewer ce soir, je serai entouré de Mathias, de Belkacem et d'Axel. Comme je disais, vous êtes artiste et vous êtes aussi professeur à l'univers, actuellement à l'université de Santa Barbara en Californie. Et vous dispensez un cours intitulé, je crois, Interactive Media.
Oui.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le contenu de cet enseignement?
Ok. Alors, je suis professeur dans un programme de doctorat et de maîtrise qui est interdisciplinaire. Alors, il y a une relation des disciplines qui viennent de l'art, qui viennent de la musique électronique, qui viennent de l'informatique, et puis aussi département d'ingénieurs. On a des profs qui font la recherche dans la physique, haptics, j'ai pas ce mot en français.
Oui, haptique, oui.
La réalité augmentée, la réalité virtuelle. Mon labo, ça s'appelle Experimental Visualization Lab, et on fait la recherche comment visualiser les données, et en même temps, on fait de la recherche aussi dans des systèmes multicaméras et de la computation de l'image.
D'accord, donc il y a un aspect à la fois art et technique. Et est-ce que vous-même, donc on sait que vous êtes artiste, mais est-ce que vous avez avant ça étudié l'informatique ou des domaines techniques comme ça?
Alors je viens d'une formation artistique. J'ai fait une maîtrise de beaux-arts dans la photographie dans les années 90. Mm-hmm. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'accès à l'ordinateur. Comme ça, je n'ai pas eu une formation d'ordinateur. Sauf qu'en 1981, j'ai rencontré un peintre qui s'appelle Harold Cohen, qui écrivait un logiciel. Et le but, c'était d'inscrire dans ce logiciel les règles et le système de comment lui, il fait la peinture. Mm. Alors, oui, c'est là que j'ai appris à faire la programmation. Mais il fallait attendre jusqu'à 1986 pour avoir un système visuel qui pouvait enregistrer des images comme la photographie.
Axel?
Bonsoir, Monsieur Legrady.
Bonsoir.
Alors, vous êtes actuellement pour quelques mois à Paris dans le cadre d'une collaboration avec la bibliothèque publique du Centre Pompidou. Vous travaillez en langue française. Quel est votre rapport avec la culture française?
Je suis né à Budapest, alors je suis de Hongrie, et quand j'étais jeune, il y avait une révolution et on était des réfugiés politiques. On est arrivé au Canada en 1956, et mes parents nous ont mis dans le système français. Et alors j'ai fait mes études en français de l'âge de 6 ans à 12 ans. Après, j'ai changé côté anglais, et Canada c'était une situation un peu compliquée entre les Français et les Anglais. Alors, il fallait que j'oublie le français vite. Mais oui, c'est quand j'ai commencé à venir retourner en France pour donner des conférences, bon, le français c'est revenu.
Ah, d'accord. Alors, concernant justement cette collaboration avec la bibliothèque du Centre Pompidou, quel est exactement le travail que vous menez au sein de ce centre?
Bon, alors je suis invité comme chercheur, et le projet c'est avec le labo Diaspora, qui est dirigé par Dana Diminescu. Et l'idée du projet, c'est d'étudier et d'analyser les requêtes que le public cherche sur les 250 ordinateurs qui est dans la bibliothèque. Okay. Alors l'idée, c'est un peu d'avoir une idée, où est-ce que ce public, qu'est-ce qu'il cherche, où il regarde, et en même temps, essayant de deviner c'est qui le public. Alors l'idée, c'est d'analyser ces données et de faire une visualisation. J'ai un projet à la bibliothèque de Seattle, où chaque fois que le public sort un livre ou un CD ou une DVD de bibliothèque, je reçois ces informations. Et comme ça, on peut analyser c'est quoi les intérêts du moment pour le public qui visite cette bibliothèque. Alors, ce projet a commencé en septembre 2005 et il est toujours operational, je n'ai pas le mot en français.
Toujours en cours,
ouais. Toujours actif. Ouais. Alors, il y a à peu près 20 000 objets qui sortent de bibliothèque chaque jour. Ouais. Et ça veut dire 7 millions par an. Et en ce moment, on est à 90 millions.
Et si je comprends bien, ce travail a une dimension académique plutôt que artistique, en fait.
Le projet à Seattle, c'est une œuvre d'art. Mais il y a un côté disons, recherche. Il y a beaucoup de dimensions à ces projets qui analysent les données.
Belkacem.
Bonjour, monsieur le gardien.
Bonjour.
Moi, j'aurais une question en ce qui concerne les données. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la visualisation de données?
Ben, c'est toujours intéressant de voir, d'avoir une summary, comment on dit en français?
Un résumé.
Un résumé de données. Mm-hmm. Et en faisant la visualisation, ça nous aide à reconnaître des patterns.
Des schémas,
des modèles, oui.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Alors, disons que j'ai fait un autre projet avec NASA où j'ai étudié les observations des planètes avec un satellite qui voyage autour du Soleil. Et bon, il a commencé en 2003, il a fini en 2009, et j'ai reçu 36 000 données d'observation. Et en faisant la visualisation, ça nous a donné une idée où les chercheurs, les scientifiques regardaient. Et c'est ça la visualisation. Ça nous aide à reconnaître des choses que autrement on n'aurait pas l'accès.
D'accord. Et est-ce que, dans le cadre de vos recherches, le fait de collectionner des données, en fait, de la collecte de données, par exemple dans votre travail actuel avec la bibliothèque du Centre Pompidou, est-ce que ça ne pose pas un problème d'éthique par rapport à la collection de données personnelles?
Quand j'ai organisé le projet à Seattle, ça m'a pris un an et demi à négocier avec les avocats et les IT, Information Technologists, qui avaient très peur que le projet... ils avaient peur que la sécurité du système est compromise.
Soit compromise. Ouais.
Mais quand on fait de l'agrégation des données, il n'y a vraiment pas... l'individu n'est pas visible. C'est plutôt la communauté. C'est plutôt une expression de la communauté. Et comme ça, je ne crois pas qu'il y a des problèmes d'éthique dans une analyse de cette façon.
D'accord. Merci.
Mathias.
Oui. Bonsoir, monsieur le Grady. Je voudrais aborder le sujet dans la pratique artistique, en fait. À partir de quoi vous partez, en fait, pour réaliser vos œuvres? Quel est le point de départ? Est-ce que vous en avez un qui revient de manière récurrente?
Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre parce que c'est toujours c'est des situations, des circonstances qui amènent à créer le projet. On est toujours dans un contexte spécifique. Au commencement, c'est une idée et en faisant l'analyse de situation, après un bout de temps, il y a une sorte d'une évolution et ça devient le projet. Et chaque projet n'est jamais vraiment fini et la fin d'un projet, c'est le commencement d'une autre.
Je vois. Alors, prenons comme exemple votre œuvre « Pocket Full of Memories » que vous avez commencé, du coup, en 2001. Dans ce cas-là, c'est une œuvre qui utilise tout type d'objets, que tout le monde peut apporter sur le lieu de l'œuvre. Et quel a été votre motif pour commencer cette œuvre-là?
Alors, en 1992, j'ai fait un projet qui était une installation interactive qui utilisait des objets qui m'appartenaient, qui réfléchissaient sur mon histoire personnelle, une sorte d'autobiographie, qui a été présentée au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et Boris Tissot, qui est un organisateur d'expo au Centre Pompidou, il a vu le travail et il m'a contacté, il m'a demandé si je peux faire un projet similaire sur le sujet de l'archive, la mémoire et l'interactivité avec le public.
Belkacem.
D'accord. Donc moi j'aimerais vous poser la question, pourquoi avoir choisi ce titre? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour...
Ah bon. Alors c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'était Boris Tissot, l'organisateur de l'expo. Et au commencement, le titre c'était « Souvenir plein les poches ». Alors, il voulait avoir un titre un peu poétique, un peu quelque chose qui aidait, disons, au public à réfléchir chacun de nous, on a des dans nos poches, on a avec nous des objets qui représentent plein de choses, des choses personnelles, des choses utilitaires et culturelles. Alors c'est comme ça que le titre a été choisi.
D'accord. Et du coup, est-ce que le thème de la mémoire est quand même important dans votre travail? Est-ce que c'est un thème qui vous représente, qui...
Ben pour moi, le mémoire, c'est devenu quelque chose d'intéressant avec l'informatique, avec les ordinateurs. Tout d'un coup, on pouvait organiser des données qui venaient des sources très différentes, des sources officielles, des sources personnelles. Et mémoire, il y a un jeu de mots parce que l'ordinateur, il a une mémoire, mais en même temps, collectionner des informations et ça devient une sorte de mémoire culturelle.
D'accord, en parlant de mémoire culturelle, quel est le lien entre vos œuvres et votre histoire personnelle, notamment parce que vous avez dû immigrer de votre pays natal, la Hongrie? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
Mais juste avec le projet que j'ai expliqué un peu, parce que il y avait le mur de Berlin qui a tombé en 1989 et j'essayais de faire un projet où je voulais organiser, peut-être capturer des expériences diverses de ma jeunesse. Comme je venais d'un pays communiste, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu dans les années 60, c'était les années hippies, counterculture. Je suis allé aux États-Unis, en Californie. Alors c'était ça qui a été l'influence pour faire ce projet-là. Mais je crois que c'est après ça, j'ai fait quelques projets qui expérimentaient sur les conditions de construire une archive. Mais aujourd'hui, je fais d'autres choses.
D'accord.
Mathias?
Moi, je voudrais revenir sur un point de votre œuvre « Pocket Full of Memories ». Donc, dans le cas de plusieurs autres de vos œuvres, comme par exemple « Swarm Vision », « Dadaflow » ou « Blink », on voit que l'œuvre utilise à des dimensions plutôt imposantes, notamment « Blink » qui utilise trois murs, une matrice d'écran pour afficher des images. Et pourquoi choisir de manière assez récurrente en fait ces dimensions-là pour vos œuvres?
Au lieu d'être devant une petite ordinateur individuellement, quand il y a du public qui sont dans l'espace, la meilleure manière de leur donner l'expérience, c'est de faire des projections qui sont grandes. Et ça touche sur la question du spectacle. Comment est-ce que l'exposition, l'installation et l'œuvre peuvent en même temps donner une expérience de spectacle au public.
D'accord. Axel?
Alors, Monsieur Legardi, on remarque la récurrence dans vos œuvres, en fait, de la présence d'installations interactives. Est-ce que pour vous c'est important, tout d'abord, comment est-ce que vous faites participer le public à vos œuvres?
Le public doit, avec l'expérience, deviner et comprendre comment manipuler le système. Et ça prend d'habitude. Il faut construire l'installation d'une manière que, à 2 à 5 minutes, il y a une sorte de maîtrisement, peut-être superficiel. Et pour ceux qui veulent s'engager d'une manière plus profonde, il faut faire un autre niveau qui est plus complexe. Alors, d'habitude, j'essaie de faire 3 niveaux. Une qu'on peut comprendre dans 2 minutes, une qu'on peut comprendre après 5 minutes, puis une qui prend plus.
Donc pour vous, à la fin, c'est important en fait que le public participe, que le public puisse participer à la réalisation de l'œuvre.
Oui, d'habitude, oui, si le public participe pas, rien se passe.
D'accord. Alors, est-ce que c'est vous qui réalisez vous-même en fait, la dimension technique de vos œuvres, ou alors vous êtes assisté par des ingénieurs en fait qui vous aident justement dans la réalisation de ces projets?
Alors, au commencement, j'ai travaillé avec une partenaire, Rosemary Comella, et on faisait les projets ensemble, nous deux. Une fois que c'est devenu plus compliqué, je suis devenu project manager.
Ah, d'accord.
Et puis, je travaille avec des spécialistes. Et maintenant que j'enseigne à Santa Barbara, mes étudiants sont les spécialistes qui produisent côté informatique.
Alors ici, nous nous trouvons dans un studio de radio, et quand on parle de radio, on parle de son. Ici, on a beaucoup parlé de visuel, de visualisation. Vous êtes un artiste du visuel, mais vous travaillez également avec le son dans certaines de vos œuvres. Quelle est l'importance du son? Quelle dimension ça donne à vos œuvres qu'il utilise?
Alors, j'ai une fondation dans la photographie, où d'habitude on ne réfléchit pas sur le son. Mais une fois que j'ai commencé à faire des projets multimédia interactifs, le son est devenu d'une manière d'enregistrer des événements. Alors, c'était plutôt la sonification que composition musicale. En ce moment, j'ai une installation à un musée en Allemagne, au ZKM, qui s'appelle Voice of Sisyphus. Et là, on a écrit un logiciel qui parcourt en permanence, qui analyse une photo singulière. Et il cherche des zones dans cette photo qu'il analyse et filtre. Et une fois qu'il a fait ça, il transforme ces informations en une expérience sonore qui est projetée dans l'espace avec 4 channels. On dit chaîne en français? Canaux.
Canaux.
Alors là, c'est le premier projet où j'ai réfléchi un peu sur comment est-ce qu'on peut utiliser le son. Et bon, il y a une tradition qui s'appelle visual music, musique visuelle, où on commence avec le son et on produit une image qui vient du son. Ici, je voulais faire le contraire. Alors, c'est plutôt son graphique. Alors, l'idée, c'était vraiment de commencer avec l'image et de produire une expérience sonore de comment ce logiciel analyse l'image.
Belkacem.
D'accord, donc pour clôturer cette session de questions, j'aurais une dernière question à vous poser. Quels sont vos projets pour aujourd'hui?
Alors, bon, je vis dans 3 mondes très différents. Je suis dans la recherche computation avec mes collègues ingénieurs et mes étudiants. On continue à faire la recherche avec les caméras qui sont attachées à un ordinateur. Et l'idée, c'est de transmettre à l'ordinateur comment moi, une photographe, comment je vois le monde, comment je comprends que c'est quoi une image qui est bien construite. Alors, c'est un peu, on dit machine learning en anglais ou artificial intelligence. Alors, ça, c'est une direction. L'autre direction, c'est de construire des projets qui vont dans le monde du nouveau média. Là, c'est des installations dans des musées. Et le troisième, c'est le monde du beaux-arts, où je produis des images pour le système de galerie de l'art. Alors c'est toi, direction assez différente, mais en même temps il y a des rapprochements, common ground entre les trois.
Nous touchons au terme de cette émission. Encore un grand merci, Georges Legrady, pour votre présence ici ce soir et pour avoir répondu à nos questions. Merci à nos chers journalistes de Radio Télécom, Axel, Mathias, Belkacem.
C'était un plaisir.
Je tiens également à remercier Pierre qui était à la technique ce soir et qui a assuré la prise de son tout au long de cette émission. Chères auditrices, chers auditeurs, bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère, sur Radio Télécom.